Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. L'Amérique, sonnée par la tuerie de l'école primaire d'Uvalde au Texas. Des centaines d'Américains viennent s'y recueillir. Reportage sur place dans un instant. Tradition présidentielle pour le pont de l'Ascension. Emmanuel Macron passe le week-end à Brégançon. Repos et travail, pendant qu'Elisabeth Borne était dans le Loiret sur le thème de la sécheresse. Un séisme dans le monde de la culture. L'ancien patron du Louvre, Jean-Luc Martinez, a été mis en examen dans une affaire de trafic d'antiquités égyptiennes. La mort d'une gueule de cinéma, Ray Liotta, acteur mythique du film Les Affranchis de Scorsese. Il avait 67 ans, on reviendra sur son parcours. Une journée fructueuse pour les Français à Roland-Garros. Beaucoup de bonnes nouvelles, ce sera à la fin de ce journal. Le temps demain sera souvent nuageux sur la moitié nord. Grand soleil en revanche sur la moitié sud. À un peu plus de deux semaines des législatives, Julien Odoul sera notre invité à 22h20. Il est le porte-parole du RN et candidat dans l'Yonne. Et puis avant la libre antenne d'Olivier Delacroix. Un tour d'horizon des unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
L'émotion toujours très vive et la colère qui monte aux États-Unis après le massacre de l'école primaire d'Uvalde. Des centaines d'anonymes font le voyage pour cette petite ville du Texas où 19 enfants et 2 enseignants ont été abattus. Des Américains, des Mexicains même, viennent se recueillir devant l'école primaire Rob à Uvalde au Texas. Reportage à Viva Fried.
Les oiseaux qui chantent aux abords de l'école d'Uvalde ne suffisent pas à faire oublier la tragédie. 21 petites croix blanches ont été plantées ici. Chacune d'elles porte le nom d'une des victimes abattues il y a 2 jours. Martine Quiroz est venue apporter un petit bouquet de fleurs violettes qu'il dépose sur la pile de fleurs et de ballons qui s'amoncelle devant l'entrée. Sur l'une des croix, le nom d'un membre de sa famille.
C'était mon petit cousin. La douleur, la souffrance... Il n'y a rien qu'on puisse dire pour trouver du réconfort.
Annabelle Raïs, elle, est venue spécialement du Mexique, à environ 150 km d'Uvalde. Elle n'arrive pas à contenir ses larmes et regarde sans cesse ses 2 filles qui l'accompagnent.
Moi aussi j'ai 2 filles. J'ai vraiment beaucoup de peine, il n'y a pas de mots.
À quelques pas de là, vêtue d'une veste vert pomme, un chien Shetland se laisse caresser par ceux qui en ont besoin. Indigo Moon et sa maîtresse Linda apportent leur soutien aux victimes et aux premiers secours.
On a travaillé avec les familles, avec des enfants. Parfois, les enfants parlent aux chiens et ça leur permet de se détendre.
2 jours après le massacre, Uvalde reste toujours sonné par le drame et personne ne peut dire combien de temps il faudra pour réussir à tourner la page. À Uvalde, à Viva Fried, Europe 1.
À Mariupol, maintenant, dans le sud de l'Ukraine, les écoliers sont privés de vacances d'été. La ville est tombée aux mains de la Russie. Eh bien, Moscou a décidé de supprimer les grandes vacances pour préparer les élèves ukrainiens au programme scolaire russe, selon la mairie de Mariupol. En Ukraine, le bilan s'est alourdi à Kharkiv. Au moins 7 civils tués et 17 blessés, dont un enfant de 9 ans après de nouveaux bombardements russes, alors que depuis la mi-mai, les forces russes avaient justement cessé leur offensive sur cette deuxième ville d'Ukraine qui tentait difficilement depuis de reprendre une vie normale. Un message de Vladimir Poutine au Premier ministre italien Mario Draghi. Moscou aidera à surmonter la crise alimentaire mondiale, mais à condition que les sanctions contre la Russie soient levées. Chaque président a ses traditions. Pour Emmanuel Macron, c'est Brégançon. Chaque week-end de l'Ascension, le chef de l'État qui s'installe pour quelques jours dans cette résidence présidentielle du Var, à l'abri des regards indiscrets, de nombreux vacanciers qui profitent eux aussi de ce long week-end, ont tenté d'apercevoir le président Frédéric Michel, mais c'est aussi pour lui un week-end studieux.
Oui, un séjour de repos et de travail. Emmanuel Macron s'est entretenu à la mi-journée avec le président turc. De son bureau situé au 2e étage du fort, il peut à tout moment, de manière sécurisée, passer des appels téléphoniques, organiser des visioconférences. De ce bureau qui jouxte la chambre présidentielle, il voit également la mer et la plage où quelques curieux tentent aussi de l'apercevoir. Robert, un habitué des lieux.
Quand il est là, il y a une recrudescence quand même de spectateurs, n'est-ce pas ?
En plus, c'est le seul pont qu'il y a de 4 jours, donc c'est bien. Je pense qu'il va y avoir du monde. Le temps est avec nous.
Depuis son premier mandat, le chef de l'État a pris pour habitude de passer ce long week-end de l'Ascension au fort de Brégançon. Jean-Pierre est venu en voisin profiter de la plage.
Moi, je ferais comme lui. Hein. On profite du sud. Quand on est parisien, on veut venir ici. Ah, on est bien. Comme vous voyez, quand on est dans l'eau, on regarde derrière. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de maison. Ah, c'est magnifique. Là.
Quelques jours au soleil, loin de l'Élysée. Michel approuve.
Ça ne nous embête pas plus que ça. On peut prendre 2-3 jours de vacances quand même. Ça va peut-être lui faire du bien aussi. À lui. Autant utiliser les locaux quand même, hein, qu'on ne paye pas des impôts pour rien.
Le président est arrivé en toute discrétion hier soir. Il n'a pas été vu, ni la première dame d'ailleurs. Mais à la mi-journée, un grand bouquet de fleurs blanches a été livré au fort.
Et voilà, Frédéric Michel devant le fort de Brégançon, où le chef de l'État travaille aussi à la réconciliation avec l'Australie après l'orageuse affaire des sous-marins. Emmanuel Macron a échangé au téléphone ce jeudi avec le Premier ministre australien. Tous deux veulent rebâtir une relation de confiance et de respect pour affronter les enjeux mondiaux, réchauffement climatique et influence croissante de la Chine en Asie-Pacifique. Pas de vue sur la mer pour Elisabeth Borne, mais tout de même une belle vue sur les champs. La Première ministre était cet après-midi dans le Loiret, déplacement consacré à la sécheresse précoce cette année et qui préoccupe le monde agricole. À un peu plus de deux semaines des législatives, Elisabeth Borne s'est rendue sur une exploitation à Sandillon, près d'Orléans. Objectif, rassurer les agriculteurs.
Ça arrive la sécheresse, mais ça revient avec le dérèglement climatique beaucoup plus fréquemment que par le passé. Donc, mon gouvernement est au travail pour gérer notre ressource en eau et éviter que la situation ne soit vraiment critique cet été, pour aider aussi financièrement les agriculteurs, les éleveurs qui seront les plus touchés, et puis pour anticiper, pour adapter nos modes de production pour les rendre moins vulnérables demain sur les prochaines sécheresses et puis plus largement pour s'adapter au dérèglement climatique.
Elisabeth Borne en déplacement ce jeudi dans le Loiret. La droite et l'extrême droite réclament une loi pour encadrer le port du burkini. Au lendemain de la suspension par la justice de l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble, Éric Piolle, le maire écologiste à l'origine de la mesure, va faire appel devant le Conseil d'État à 22h20 sur Europe 1. On fera réagir justement Julien Odoul, le porte-parole du Rassemblement National. C'est un choc dans le monde de la culture. L'ancien patron du Louvre est soupçonné d'être impliqué dans un trafic d'œuvres antiques. Jean-Luc Martinez a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir participé à un vaste trafic d'antiquités égyptiennes, Gladys Laffitte.
Oui, en fait, Jean-Luc Martinez est soupçonné d'avoir fermé les yeux sur l'origine illégale de 5 pièces antiques égyptiennes achetées par le Louvre Abu Dhabi, dont une très connue, une stèle en granit rose de Toutankhamon. On parle là d'œuvres qui ont été achetées plusieurs dizaines de millions d'euros par le musée, alors que leur provenance est au minimum douteuse et que de faux certificats d'origine ont été fournis. C'est ce que reprochent les enquêteurs à l'ex-directeur du Louvre, d'avoir eu connaissance de ces faux documents et d'avoir quand même acheté les pièces. Cette mise en examen n'est pas la première dans ce dossier tentaculaire de trafic d'antiquités qui concerne aussi un autre grand musée à l'étranger. Des œuvres pillées dans des pays instables comme l'Égypte ou le Yémen, revendues ensuite une fois gommées leur provenance illégale. Trois personnes sont soupçonnées d'avoir blanchi des antiquités. L'enquête devra déterminer les conditions précises d'acquisition des œuvres concernées par le Louvre Abu Dhabi. De son côté, Jean-Luc Martinez conteste fermement sa mise en cause dans cette affaire.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Les excuses d'un des patrons de Ferrero après le scandale des chocolats Kinder contaminés qui ont rendu plus de 80 enfants malades en France, 22 d'entre eux hospitalisés. Dans les colonnes du Parisien, le directeur général de Ferrero France estime qu'après enquête, la contamination des chocolats Kinder viendrait d'un filtre dans une cuve à beurre. Elle y serait arrivée soit par des matières premières contaminées, soit par des personnes. 3000 tonnes de produits Kinder ont été retirées du marché, soit des dizaines de millions d'euros de pertes pour Ferrero.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Comment faire cesser les violences conjugales? Près de Strasbourg, une jeune femme doit sans doute son salut à un post-it. Nous sommes dans une pharmacie d'Ilkirch. Mardi, une femme enceinte se présente au comptoir. Elle est avec son conjoint. Pendant l'échange avec la pharmacienne, elle parvient à lui glisser discrètement un bout de papier. C'est un appel au secours. Un seul mot, SOS. La pharmacienne comprend immédiatement. Elle appelle la police. Le compagnon est très vite interpellé. Mélina Fachin, vous avez pu visionner la vidéosurveillance de la pharmacie.
Oui, et les images font froid dans le dos. On y voit clairement cette jeune femme, enceinte de plusieurs mois, tendre son ordonnance à la pharmacienne. Dans le coin de la feuille, elle tapote discrètement du bout du doigt le mot SOS qu'elle a griffonné elle-même. Et elle plante plusieurs fois son regard dans les yeux de la pharmacienne avec insistance. On comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Un mètre derrière elle, son conjoint, les bras croisés, les sourcils froncés, ne voit rien. La pharmacienne garde son calme, part en arrière-boutique de longues minutes, comme le raconte Isabelle, sa responsable.
Dans le doute, j'appelle les secours quand même et ils me disent qu'on fasse notre possible pour garder les gens à l'officine et qu'ils arrivent tout de suite. Donc je descends et effectivement, je vois qu'elle me regarde avec insistance, mais vraiment un regard soutenu.
Il faut maintenant jouer la montre, gagner du temps. Au comptoir, l'homme commence visiblement à s'impatienter. Il s'agite. Isabelle décide alors de trouver un prétexte pour faire passer cette femme dans l'arrière-boutique.
Donc on invente une prise de mesure. Et là, effectivement, elle fond en larmes, elle tremble, elle est toute stressée. Elle nous dit que son compagnon est violent, qu'il a tout cassé chez elle, qu'elle est désolée.
La police finit par arriver sur place au bout de quelques minutes. Elle arrête cet homme soupçonné de violence et le place en garde à vue.
Mélina Fachin à Strasbourg pour Europe 1. Un nouvel épisode du Partygate. Boris Johnson a dû maintenant présenter ses excuses aux agents de sécurité et de nettoyage de Downing Street. L'enquête administrative publiée hier révèle qu'on leur a manqué de respect pendant ces fêtes organisées en plein confinement liées au Covid dans la résidence du Premier ministre britannique. Du vin rouge renversé à éponger et des comportements déplacés de la part des fêtards sur fond d'alcoolisation excessive. Produire de l'hydrogène vert issu d'énergie renouvelable et entrer en bourse, c'est possible. C'est exactement ce qu'est en train de faire Life, une toute jeune entreprise nantaise créée il y a 5 ans. L'hydrogène est l'élément le plus abondant dans la nature et il est en train de devenir une solution crédible pour remplacer les énergies fossiles, à condition bien sûr qu'il soit lui aussi vert, c'est-à-dire décarboné. Et bien c'est exactement ce que fait Life, qui a inauguré son premier site de production en Vendée, avant d'en ouvrir d'autres en France et en Europe. Aurélien Fleureau.
Passer de l'expérimentation au concret de la production, c'est la trajectoire de Life. La jeune entreprise prouve que produire de l'hydrogène entièrement issu d'énergie renouvelable, c'est possible et c'est applicable partout avec des usages précis, comme le détaille Antoine Hamon, le directeur des opérations.
Pour alimenter les bus, les camions poubelles, les voitures, les centres logistiques. Donc on va pouvoir localement produire l'énergie qui va être utilisée dans tous ces usages. Et ça, on l'a fait en Vendée pour prouver le concept, pour montrer à tout le monde que c'est possible à des tarifs compétitifs. Et maintenant, on va le faire partout en France.
Partout en s'adaptant à chaque région, le prochain projet se fera par exemple au large de Saint-Nazaire, en mer, pour passer à la vitesse supérieure.
L'avantage de l'offshore, c'est qu'on va pouvoir développer des champs éoliens qui sont aujourd'hui beaucoup plus puissants que ce qu'on peut développer à terre. Là, on va pouvoir, pour l'hydrogène, aller plus loin avec des éoliennes flottantes qui ont des capacités de production beaucoup plus importantes et qui vont nous permettre de vraiment massifier la production.
L'éolien offshore est donc une piste de développement très sérieuse pour Life, qui vient de lever près de 70 millions d'euros en un an et est en train de passer de quelques dizaines de salariés à bientôt 200.
Aurélien Fleureau. Kevin Spacey, inculpé de 4 agressions sexuelles contre 3 hommes au Royaume-Uni. La star américaine va faire l'objet de poursuites pénales outre-Manche. Les faits reprochés s'étalent entre 2005 et 2013. Kevin Spacey était visé par une enquête depuis des plaintes pour violences sexuelles dans le quartier londonien du théâtre Old Vic, dont il était à l'époque le directeur artistique. On a appris ce soir la mort de Ray Liotta, mythique acteur américain, une gueule de cinéma. Ray Liotta est mort dans son sommeil pendant un tournage. Il avait 67 ans, il reste indissociable de son rôle dans Les Affranchis, grand film de mafieux signé Scorsese, et où il partageait le haut de l'affiche avec Robert De Niro, Marie Jiquel.
Et oui, Alexandre, Ray Liotta avait réussi la prouesse de se faire remarquer dans Les Affranchis alors qu'il partageait l'affiche, cette affiche noire à l'écriture blanche, avec deux monstres du cinéma, Robert De Niro et Joe Pesci. Dans ce film d'apprentissage, il y tenait le premier rôle, celui d'Henry Hill, jeune New-Yorkais qui rêve de devenir gangster et apprend les ficelles auprès de deux mafieux déments et explosifs, Jimmy et Tommy.
We always called each other Goodfellas.
Un an d'audition passé devant le réalisateur Martin Scorsese, c'est son calme, disons sanguin, un calme jamais très serein qui va convaincre le boss. Ray Liotta avait alors enfilé son costume de truand et adopté cette gestuelle bouillante. Ce trio violent a marqué l'histoire du cinéma à coups de pelle et d'humour noir, des répliques cinglantes et la scène la plus troublante du cinéma, celle où Joe Pesci le teste au restaurant, un Joe Pesci humiliant face à un Ray Liotta très gêné.
I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny?
You're funny.
Par la suite, Ray Liotta enchaînera les rôles de flic, jamais loin des magouilles, mais rien d'égal à Henry Hill.
Marie Jiquel. Et puis on apprend à l'instant, tout juste, la mort d'Andy Fletcher, membre fondateur du groupe Depeche Mode. Andy Fletcher avait 60 ans.
Roland-Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
On retrouve Cédric Chasseur en direct de la Porte d'Auteuil. Cédric, pour commencer, faisons un point sur le match d'Alizé Cornet qui est en cours sur le Philippe Châtrier.
C'est chaud sur ce court Philippe Châtrier avec Alizé Cornet qui vient de faire le break à nouveau dans la troisième manche Match très particulier parce qu'Alizé Cornet avait remporté le premier set fleuve 6-0. Yelena Ostapenko, la tête de série numéro 13 à Layton, avait remporté la deuxième manche 6-1, à l'inverse se complet. Et puis là, dans la troisième manche, eh bien, c'est Alizé Cornet qui fait la course en tête. Double break désormais, 3-0. Il faut dire qu'Ostapenko a commis 35 fautes directes depuis le début de cette rencontre, qui aide bien Alizé Cornet à faire la course en tête.
Alizé Cornet qui pourrait être la touche finale, hein, Cédric, a une journée presque parfaite pour le clan français.
Effectivement, les tricolores étaient en forme ce jeudi. 3 victoires sur les 4 en lice. Celle qui a lancé le bal, c'est la surprenante Léolia Jean-Jean, 26 ans, 227e joueuse mondiale, qui a sorti à l'heure du déjeuner la tête de série numéro 8, Karolina Pliskova, 6-2, 6-2, en à peine 1h15. C'est d'ailleurs la joueuse la moins bien classée à avoir remporté un match contre une joueuse top 10 depuis Conchita Martinez en 1988 face à Laurie McNeil. Je n'étais pas né, elle non plus, et c'est un vent de fraîcheur sur ce Roland-Garros, et elle-même peine à y croire.
Pour être honnête, je ne sais même pas trop quoi dire, c'est juste tellement irréel et improbable ce qui se passe. Déjà au premier tour j'avais dit la même chose, mais là c'est encore un cran au-dessus, j'ai envie de dire. Troisième tour de Roland, ben, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé, j'ai envie de dire. Donc, c'est la première fois de ma vie que je jouais quand même une top 100 il y a deux jours, donc c'est... C'est incroyable.
Alors, Léolia Jean-Jean qualifiée pour le troisième tour. L'autre française engagée aujourd'hui dans le tableau féminin, outre Alizé Cornet qui joue en ce moment, eh bien, c'était Caroline Garcia, éliminée en 2-7 par l'américaine Madison Keys.
Et chez les hommes, maintenant, Cédric, Hugo Gaston a une nouvelle fois fait parler sa magie.
À 21 ans, le 74e joueur mondial a écarté l'Argentin Pedro Cachin en 3-7, 6-4, 6-2, 6-4. Une victoire qui le propulse au troisième tour où il affrontera le Danois Holger Rune, un adversaire qui ne lui est pas inconnu.
Le score ne reflète pas vraiment le match pour moi. Mentalement, c'était un match très très dur parce que je n'ai pas forcément l'habitude de rentrer sur le Susan Lenglen en tant que favori au classement en tout cas. Donc c'était un match très compliqué, mais je trouve que je l'ai quand même bien géré. Donc je suis très content du match et de l'ambiance qu'il y avait sur ce terrain.
L'autre Français, Cédric, à avoir brillé, c'est Gilles Simon, hein, lui aussi au troisième tour à 37 ans.
Ouais, Gilles Simon a décroché ce jeudi sa 500e victoire sur le circuit. Il n'est que le troisième Français à atteindre ce plateau. Gilles Simon aura moins bataillé que mardi pour l'emporter. Il n'a pas attendu 1h05 du matin pour se qualifier. Succès en trois manches face à l'Américain Steve Johnson et une place au troisième tour presque inespérée.
Je suis surpris, agréablement surpris évidemment. Je ne me pensais pas capable de le faire. Aujourd'hui, je me sentais capable de battre un joueur comme Steve. Je sais que si je fais un bon match, j'ai un jeu qui peut le gêner, tout ça, surtout vu la performance du premier tour. Mais ça sera vraiment mentir que à aucun moment je me suis mis vainqueur du premier tour. À aucun moment, quand j'ai la journée passée, je me suis dit ce soir, je vais sortir de ce terrain-là en ayant gagné. J'étais loin d'avoir la confiance, les résultats, enfin plein de choses nécessaire pour arriver à me projeter en vainqueur.
Et maintenant ?
Bah maintenant j'ai gagné, donc je peux dire que ouais.
Gilles Simon qui affrontera samedi le croate Marin Cilic, tête de série numéro 20. Juste Alexandre, deux mots pour vous donner des résultats de tête de série.
Oui.
Stefanos Tsitsipas s'est imposé il y a quelques minutes, le grec, tête de série numéro 4, 6-3, 7-6, 6-7, 7-6. Et un mot aussi de la très grande favorite du tournoi féminin, la numéro 1 mondiale Iva Świątek, qui a encore concédé seulement deux jeux et qui s'est qualifiée elle aussi pour le troisième tour.
Eh bien, merci pour ce point exhaustif, Cédric Chasseur. Cédric en direct de Roland-Garros pour Europe 1. Il y avait aussi du foot ce soir. Match de barrage entre Auxerre et Saint-Etienne. La JOCR, troisième de Ligue 2, doit disputer trois matchs de barrage pour retrouver la cour des grands. Auxerre a arraché le nul, un partout, face à Saint-Etienne, 18e de Ligue 1, grâce au milieu offensif Gaëtan Perrin à la 87e minute.
On se l'est dit dans le vestiaire en rentrant à la mi-temps. On a eu 20 minutes très très compliquées. On avait du mal à suivre le rythme qu'il nous a imposé, voilà, c'est quand même un rythme d'une équipe de Ligue 1. On s'est vite adapté, je trouve, quand même, au bout de 20 minutes. Et derrière, on a déroulé notre jeu et on a vu qu'on pouvait largement rivaliser avec l'équipe de Saint-Etienne. Après avoir été mené au score tout le match, à domicile, alors on connaît l'importance du premier match à domicile, d'aller chercher cette égalisation en fin de match, même au niveau de l'engouement pour l'équipe, et ça va faire du bien, beaucoup de bien, beaucoup de positif. Et je pense qu'on a vraiment très bien fini ce match, et on va rattaquer le second acte de la même manière.
Gaëtan Perrin, milieu offensif de la JOCR. La finale de la Ligue des Champions sous haute sécurité samedi à Paris. Près de 7000 policiers, gendarmes et pompiers seront mobilisés pour cette rencontre potentiellement explosive entre Liverpool et le Real Madrid. Les autorités s'attendent en particulier à l'arrivée de 30 à 40 000 supporters de Liverpool sans billets pour la finale. La météo de ce vendredi du pont de l'Ascension, Valérie Darmon, le beau temps revient presque partout.
Effectivement, surtout au nord de la Loire où vous passez votre matinée sous les nuages avec quelques bruines possibles. Mais dans l'après-midi, vous retrouvez de larges éclaircies, voire du très beau temps sur ces régions. Les nuages font juste de la résistance des pays de la Loire au plateau lorrain. Au sud, près des Pyrénées, les nuages sont plus présents qu'ailleurs. Mais du nord Aquitaine à la façade est, le ciel est très ensoleillé. Dans le sud-est des Alpes, à la Côte d'Azur jusqu'en Corse, vous êtes toujours sujet à de nombreux cumulus, parfois menaçants, avec une tendance à l'orage en l'après-midi. Les températures remontent avec 15 à 20 degrés le matin, 30 à 32 l'après-midi dans le sud et des pointes à 35 dans l'arrière-pays varois.
Merci Valérie Darmon. Nouveau point météo avec vous à minuit sur Europe 1.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Top à Wall Street avec Didier Hamo. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui a poursuivi son rebond d'hier dans un marché assez calme.
Oui, ça se passe bien, hein, ça remonte encore. Wall Street gagne du terrain, le Dow Jones grimpe d'1,6%, 32 637 points. Le Nasdaq prend 2,68%, 11 740 points. C'est le secteur technologique qui emmène encore le marché. Avec les annonces cette fois de concentration dans les semi-conducteurs, on a Broadcom qui monte de 3%. On a aussi toutes les valeurs de technologie les plus capitalisées qui se reprennent comme Apple plus 2,5%. Microsoft plus 1,3%, Facebook plus 4% à 192 dollars. Tesla grimpe même de plus de 7%, 710 dollars. Et le pompon revient à Alibaba qui s'envole littéralement de 15% après des ventes en ligne meilleures que prévues. Le pétrole continue de progresser, là c'est plus embêtant, le baril est à 114 dollars ce soir, c'est une nouvelle hausse de 3%. L'euro aussi monte, progresse au-dessus des 1,07, 1,0720 face au dollar.
La Bourse de Paris est remontée sur les 6400 points dans un marché déserté, hein, en raison de l'ascension bien sûr.
Oui, logiquement, effectivement, plus 1,78% quand même, hein, 6410 points sur le CAC 40 avec des achats à bon compte. On a dans le secteur industriel en particulier l'aéronautique, Airbus plus 4% à 109 euros, Safran plus 4% aussi, l'automobile qui regagne du terrain, Renault plus 4% à 25,30 euros, Stellantis plus 2,5% et puis tout le secteur du luxe qui se reprend. On a LVMH qui gagne 3,5%, Kering plus 3% aussi, 467,70 euros. Globalement, ça se passe plutôt bien en Europe. Le DAX a pris 1,6% à Francfort, Madrid a regagné 1,5%, Milan plus 1,2%. On rappelle le CAC 40 en hausse ce soir, 1,78%, 6410 points.
Merci Didier Hamo.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
L'invité politique sur Europe 1. Bonsoir Julien Odoul.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du Rassemblement National, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et candidat aux législatives dans la 3e circonscription de Lyon. Et vous dites, Julien Odoul, que le Rassemblement National veut incarner le vote utile pour ces législatives. Qu'est-ce que vous entendez par vote utile ?
Oui, le vote utile. Le vote utile, c'est-à-dire les intérêts du peuple contre l'élitocratie, contre l'oligarchie, contre la déconstruction de M. Macron, qui n'a visiblement rien compris de son quinquennat et rien compris du second tour de l'élection présidentielle. On a un président, il faut bien le dire, qui est de plus en plus arrogant, qui fait la sourde oreille et qui continue tout simplement avec la nomination de son gouvernement, qui continue la déconstruction de notre pays avec des nominations qui sont de l'ordre de la provocation, comme celle de M. Papendia, et qui continue à matraquer les Français, qui ne veut pas rendre du pouvoir d'achat, qui continue avec l'immigration massive, qui continue finalement dans une fuite en avant. Donc il faut qu'il y ait une opposition, c'est vital et démocratique, à l'Assemblée nationale, et elle pourrait être incarnée par les députés du RN.
Mais vous y croyez ? Enfin, je veux dire, vous croyez à l'idée que les députés RN puissent décrocher un groupe à l'Assemblée ? Il vous faudrait 15 députés minimum, ça vous paraît possible ?
Non seulement nous allons décrocher un groupe, mais nous aurons beaucoup plus de députés, une force importante qui nous permettra de contrecarrer, de nous opposer à la politique de Monsieur Macron. C'est très important qu'il y ait une opposition, sinon il n'y a pas de démocratie. Malheureusement, nous n'avons pas de proportionnel aujourd'hui, alors que nous le demandons depuis longtemps, alors que Monsieur Macron l'avait promis en 2017 sous forme de dose.
C'est-à-dire que donc, le mode
comme
de scrutin,
il n'y a pas de proportionnel,
vous...
il faut que
le mode de scrutin vous désavantage. C'est ce que vous dites.
Il désavantage tous les Français qui ne sont pas représentés donc au regard des opinions qui traversent le pays. Il faut que les 13 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen soient représentés à l'Assemblée nationale. Il faut que les 30 départements où Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour de la présidentielle puissent être représentés à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut qu'il y ait des députés. Et moi, j'invite tous les électeurs de Marine Le Pen qui ont glissé un bulletin de vote Marine Le Pen le 24 avril à glisser un bulletin de vote RN les 19, les 12 et 19 juin.
Alors justement, on se demande si Marine Le Pen elle-même y croit. Alors bien sûr, on voit ses déplacements sur le terrain, hein, mais on a le sentiment tout de même qu'il n'y a plus du tout la même pugnacité, la même présence de sa part lorsqu'elle défendait sa propre candidature pendant la présidentielle.
Marine Le Pen est en campagne, elle est partout, dans tous les territoires. Elle était aujourd'hui en Normandie. Elle est évidemment en campagne dans le Pas-de-Calais où elle est candidate elle-même. Marine Le Pen est aux côtés de Jordan Bardella, le président du RN, pour mener cette bataille des législatives qui est extrêmement importante et qui est le troisième tour de l'élection présidentielle. Donc il y a aucune démobilisation, bien au contraire, il y a véritablement l'ambition et la résolution de porter la parole du peuple et de constituer ce groupe qui sera véritablement un bouclier pour le peuple français, qui permettra de porter des sujets extrêmement importants comme le pouvoir d'achat, comme la baisse des taxes, comme la lutte contre l'immigration massive, comme la fin du laxisme judiciaire. Seul le Rassemblement national peut porter ces sujets et les mettre sur la table. Et on voit bien d'ailleurs que le gouvernement recule ou arrive à mettre de l'eau dans son vin sur certains sujets. J'en veux pour preuve sa décision d'arrêter de sanctionner les automobilistes pour les petits excès de vitesse. Oui. Qui était une proposition de Marine Le Pen depuis très longtemps.
Julien Audoux, l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble vient d'être suspendue par la justice. Vous vous positionnez à nouveau sur cette question du burkini. Il faut une loi pour l'encadrer ?
Oui, il faut une loi. Il faut une loi pour faire la guerre à l'islamisme. Aujourd'hui, notre législation est beaucoup trop faible face à l'ennemi de la République que représente l'islamisme. Il faut une loi pour interdire le burkini, qui est l'étendard de l'islamisme, mais pas seulement. Il faut fermer toutes les mosquées radicales. Le gouvernement en a fermé quelques-unes, mais c'est bien insignifiant. Il faut expulser tous les prêcheurs de haine étrangers. Il faut expulser tous les fichiers S étrangers pour islamisme, qui sont au nombre de 4000. Il faut couper toutes les subventions aux associations communautaristes et islamistes, et il faut aussi s'attaquer aux complices, à ceux qui pactisent, à l'extrême gauche notamment, qui, dans ses collectivités, par la voix de ses élus, pactisent avec les ennemis de la République, comme Monsieur Piolle à Grenoble, qui est dans une visée, je dirais, totalement anti-républicaine, de favoriser les emblèmes et les outils de l'islamisme.
À sa prise de fonction à Matignon, Elisabeth Borne a dit « je ne mentirai pas aux Français ». Et là, on a beaucoup pensé à la réforme des retraites. Beaucoup ont pensé, c'est une façon de dire pour la Première ministre, que promettre la retraite à 60 ans, comme vous le faites au Rassemblement national, ce n'est pas tenable financièrement.
Bien sûr que c'est tenable. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui, l'an dernier, dans un rapport qui a été rendu en juin 2021, nous disait que, contrairement à la mythologie macroniste, le statu quo donc du système de retraite n'engendrerait aucune déflagration de nos finances publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système est évidemment pérenne, et surtout il faut qu'il soit juste. Et pour qu'il soit juste, il faut que les Français qui ont commencé à travailler tôt, c'est-à-dire entre 17 et 20 ans, puissent partir à la retraite tôt. Il en va, je dirais, de leur santé, il en va de la qualité de vie, parce que la retraite, c'est pas seulement une donnée comptable, c'est aussi de l'humain, c'est aussi une dimension sociale. Donc c'est pour ça que nous proposons un système qui est le plus juste et qui est le plus efficace aussi économiquement. C'est-à-dire que vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous partez à 60 ans avec 40 annuités, et vous avez, pour ceux qui ont commencé à travailler plus tard, vous partez avec 42 annuités à partir de 62 ans. C'est clair, et je pense que c'est partagé par une majorité de Français.
Merci, merci Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National et candidat aux législatives dans la troisième circonscription de Lyon.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
On jette un coup d'œil sur les unes de la presse demain, vendredi, après le scandale Kinder, le mea culpa du patron de Ferrero. C'est la une d'aujourd'hui en France. Le patron de Ferrero qui reconnaît une défaillance. Il annonce que les familles des 81 petites victimes de la salmonelle obtiendront réparation et que toutes les usines du groupe seront désormais contrôlées en partie par des laboratoires extérieurs. Ils se connaissaient finalement assez peu avant la nomination de la Première ministre le 16 mai. Borne-Macron, un couple à l'essai, c'est la une de l'opinion. Leur compagnonnage au sommet de l'État devrait réserver quelques surprises. De leur relation entamée il y a seulement 5 ans, on sait au moins une chose, Elisabeth Borne sait tenir tête à Emmanuel Macron. Le Figaro, de son côté, tire à boulet rouge sur la gestion de la ville de Paris. Qu'on parle de la dette, de l'urbanisme, de la circulation ou de la saleté, rien ne va plus dans le Paris d'Anne Hidalgo, écrit le Figaro. De retour dans la capitale après sa déroute à la présidentielle, la maire de Paris, plus que jamais contestée jusque dans sa majorité, les projets fous succèdent aux polémiques, aux grandes dames des Parisiens. 22h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Voici Olivier Delacroix qui met son casque à l'instant pour vous parler. Bonsoir Olivier.
Française, français.
Ah mais oui, vous aviez cet air très solennel à l'instant.
Oui, vous m'avez pris en pleine... J'étais en quête des morceaux de musique que nous allons passer ce soir, voyez-vous.
Ah, très important.
Donc, ça y est, j'ai trouvé.
Très important pour ça, agrémenter ce petit jeudi de l'Ascension.
Exactement. Comment ça s'est passé, ce petit jour de l'Ascension?
comme un jeu, vous l'avez dit.
Hein, très bien.
Voilà, très bien.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Je vous vois prendre des notes en même temps. Vous êtes impayable.
Qu'avez-vous fait?
De la présentation, des journaux, vous voyez.
Ah oui, vous avez bossé toute la journée.
Pas toute la journée, mais une bonne partie.
Une
oui.
bonne partie. Ouais. Ça fait un sacré morceau, hein, 22h, 22h30. Quand
ça
même.
Fait du bien.
Oui.
Le 19h.
Le travail,
aussi.
C'est la santé, comme bien disait sûr. Henri Salvador.
Exactement.
Bon, et donc tout va
ça
bien.
Ça peut partir de votre playlist ce soir, Henri Salvador.
Non, de temps en temps, on met Henri Salvador. Mais plutôt au jardin d'hiver, vous voyez. Des choses un peu tranquilles.
Joe Dassin, non?
Non. Depuis que Florian nous a sorti un Joe Dassin qui nous a tous traumatisés.
Ah bon?
Joe Dassin est malheureusement banni de nos playlists.
Vous l'avez blacklisté.
Blacklisté totalement.
Bon.
Il nous a fait un jour, il nous a mis en plus par surprise un morceau que les rugbyman aiment beaucoup. Et voilà, il avait hésité entre Patrick Sébastien et Joe Dassin.
Oula, c'est pas du tout le même style là.
Bah oui, mais c'est des chansons vous voyez, que les rugbyman, enfin que le public du rugby chante. Je ne suis pas certain d'adhérer totalement.
Bon, ok, je vois ça.
Mais bon, voilà. Et puis là, maintenant, on va y aller.
Bon, très impatient de découvrir votre playlist, en tout cas.
Bah, écoutez, oui, puis les témoignages surtout, parce que c'est ça qui compte.
Bien sûr.
On vous dit à tout à l'heure, 23h.
À tout à l'heure, Olivier.
À tout à l'heure, Alexandre.